tous les mercredis de 16h à 17h, vous avez rendez-vous avec le monde sur iRadio. Diplomatie, votre émission dédiée à la géopolitique et aux relations internationales, passe au crible l'actualité internationale avec des experts de premier plan intervenant dans divers domaines et dont l'expertise n'est plus approuvée. Diplomatie, c'est la tribune des hommes et des femmes qui font bouger le monde de par leurs positions et actions de tous les jours. Économie, politique, culture, environnement, santé, sport, votre rendez-vous des nouvelles du monde décrypte tout. Diplomatie, c'est tous les mercredis de 16h à 17h sur iRadio avec Mam Abdougay Kassé.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité renouvelée au programme d'iRadio cet après-midi du mercredi 5 juin 2024. Votre émission Diplomatie reçoit la directrice régionale du bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Bonjour Samira Daoud.
Bonjour.
Au menu de votre rendez-vous hebdomadaire dédié au décryptage de l'actualité géopolitique, il sera question de la restriction des médias et des libertés en Guinée, au Mali et au Burkina Faso, des pays qui ont en commun un régime militaire à leur tête. D'ailleurs, le bail de la transition est prorogé de 5 ans pour Bamako et Ouagadougou, avec à la clé l'autorisation de candidature des colonels Assimi Goïta et Ibrahim Traoré aux prochaines élections. Conakry, pour sa part, indique qu'il n'y aura pas de scrutin en fin d'année, mais plutôt un référendum constitutionnel. L'opposition, pour sa part, dénonce un glissement dangereux du calendrier de la transition. Nous aborderons enfin le rôle prépondérant que peut et doit jouer le Sénégal pour la résolution du différend entre l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO, dont elle a claqué la porte. Voilà pour le sommaire de cette émission, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Samira Daoud, commençons par l'actualité en Guinée. Fin mai, le gouvernement de transition a retiré la licence de 4 radios et une télévision appartenant à 3 groupes de presse, Adafo Média, auxquels appartient Espace TV, mais aussi Fréquence Média et Dioma Média. Il faut le dire, ce sont les organes de presse les plus suivis en Guinée. Alors, quelle est la position d'Amnesty International sur cette situation?
Alors, ces attaques en direction des principaux médias privés que vous avez mentionnés ne sont pas nouvelles, c'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs mois que la liberté d'expression est considérablement restreinte en Guinée. L'utilisation des principaux réseaux sociaux est perturbée déjà depuis plusieurs mois. L'accès à certains sites ne peut se faire que via l'utilisation d'un VPN. Et nous avons pu observer la suspension d'abord de ces différents médias qui sont effectivement les médias les plus regardés, les plus suivis par les Guinéens. Et aujourd'hui, il y a quelques jours maintenant, c'est leur licence qui leur a été retirée. C'est évidemment extrêmement préoccupant. Le fait que des pays soient dirigés par les autorités militaires déjà est problématique dans le sens où cela suspend toutes les instances démocratiques et donc c'est une difficulté pour les populations et les citoyens. Mais ce que nous avons pu observer, que ce soit en Guinée, au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, malheureusement, c'est que ces transitions, ces régimes de transition ont mis en place des mesures extrêmement autoritaires et totalement liberticides en visant notamment les médias, et en l'occurrence en Guinée, de manière particulièrement brutale, puisque ce sont donc des sites d'information et des chaînes d'information, des radios, des télés, qui sont aujourd'hui privés de licence et empêchés de pouvoir diffuser leurs programmes, et des journalistes qui avaient été arrêté pour avoir protesté contre ces restrictions de liberté. Le président du syndicat des journalistes lui-même avait été arrêté et avait pu finalement être libéré malgré sa condamnation suite à une pression importante populaire. Mais tous ces éléments montrent que la situation en Guinée est sur le plan des libertés extrêmement préoccupante.
Vous revenez justement de la Guinée. Dans quel état d'esprit se trouvent les professionnels des médias, journalistes et techniciens confondus?
Ils sont évidemment extrêmement inquiets, et moi je les avais rencontrés, et j'avais notamment rencontré M. Pendessa, le président du syndicat des journalistes, avant la décision de retrait de licence. Nous avions d'ailleurs cherché par tous les moyens à rencontrer les autorités pour leur faire part de nos préoccupations quant aux restrictions de liberté. Nous y allions pour présenter le dernier rapport que nous avons produit sur la Guinée, parlant des cas de personnes qui avaient été tuées au cours de manifestations et pour lesquelles il n'y a aucune justice et pour lesquelles il n'y a aucune prise en charge médicale. Mais nous en avons profité pour rencontrer les professionnels des médias qui sont tous extrêmement inquiets et qui aujourd'hui forcément sont désemparés. Et c'est pour ça qu'il est important que la pression puisse s'exercer sur les autorités guinéennes pour qu'elles reviennent à la raison, et que le rôle que pourrait jouer potentiellement le Sénégal, qui jouit de cette légitimité démocratique au niveau de la région, serait, je l'espère, serait de pouvoir...
Nous en parlerons à la fin de l'émission.
Exactement, de pouvoir influencer positivement ces régimes plutôt que d'essayer de les normaliser les relations avec eux.
Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le déplacement de la diplomatie sénégalaise dans ces pays-là?
Non, absolument pas. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Je pense que le président sénégalais est dans son rôle d'essayer de renouer avec les pays voisins et les pays de la CDAO plus généralement. Je pense et j'espère qu'il utilisera cette influence qu'il aura, du fait d'avoir été élu de manière totalement démocratique et d'avoir une légitimité parfaitement, qui n'est pas contestable aujourd'hui, qu'il utilisera cette légitimité et cette crédibilité pour influencer positivement ces pays qui aujourd'hui sont en train de sombrer dans un autoritarisme féroce. Et je pense que quelqu'un comme le président Diomaye Faye, qui a lutté contre justement la dérive autoritaire qu'a connue le Sénégal ces dernières années, qui a lui-même été emprisonné pour des raisons totalement arbitraires, j'espère qu'il sera celui qui défendra dans la région les libertés, le respect des libertés et le respect du droit.
Nous aborderons largement le rôle que doit et devrait jouer le Sénégal dans la résolution des crises et des différends dans la sous-région. Mais pour le moment, nous restons sur le cas guinéen. Avant que cette mesure radicale de retrait de licence ne soit prise, nous avons assisté Samira Daoud à des brouillages d'émetteurs de ces organes de presse en question, vous en avez parlé tout à l'heure, mais également de la restriction de l'accès à Internet. Selon vous, à quoi est dû ces ajustements que certains assimilent à un excès de zèle?
Alors, je pense que c'est difficile de considérer qu'il s'agit simplement d'un excès de zèle. Je pense qu'il y a une politique délibérée ici de faire taire toute forme de voix dissidente, et que la meilleure façon d'empêcher les idées progressistes ou critiques de la junte et de cette extension un peu à l'infini des régimes de transition, c'est d'empêcher que ces organes puissent s'exprimer. Et donc, je pense qu'il est difficile de voir autre chose ici qu'une volonté délibérée de la part des autorités guinéennes de faire taire toute forme de critique à un moment où on annonce que finalement la transition ne va pas se terminer fin 2024, mais que probablement ça prendra plus de temps. On explique aux Guinéens qu'il n'est pas possible d'organiser des élections tout en disant qu'on va pouvoir organiser un référendum, ce qui pour moi est quelque peu contradictoire. Si on peut organiser un référendum, donc on peut organiser une élection, puisque le référendum est quand même un vote. Et donc c'est pour ça qu'il faut que toutes les voix puissent s'exprimer pour soutenir vos confrères guinéens et soutenir de manière générale la société civile guinéenne qui aujourd'hui est clairement menacée.
Toujours en Guinée, plusieurs professionnels de la presse ont été envoyés en prison. Des arrestations tous azimuts, la dernière en date, celle du journaliste Sékou Diamal Pendessa, secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Vous l'avez rencontré lors de votre déplacement tout récent à Conakry. Il a fallu une levée de bouclier de la part de la corporation et de l'intersyndicale guinéenne qui ont décrété une grève générale afin d'obtenir sa libération après sa condamnation à 6 mois de prison ferme. Quelle analyse faites-vous sur l'état de la justice en Guinée de façon globale?
Je crois qu'il faut vraiment être très vigilant et à la manière dont la justice peut être instrumentalisée de manière générale dans la région. On l'a vu au Sénégal aussi, malheureusement, à un moment donné, à des fins politiques. Je pense que il est important de faire en sorte que la justice continue de jouer son rôle, qui consiste à dire le droit. C'est un pilier absolument fondamental de l'état de droit. Et le fait de recourir à des procédures judiciaires et d'utiliser de manière abusive un certain nombre de dispositions des lois pour faire taire les voix critiques est quelque chose qu'il faut absolument condamner et qu'il faut et qui doit cesser. Pour la Guinée, j'ai pu rencontrer Monsieur Pendessa. Il reste très combatif malgré les épreuves, mais je crois que aujourd'hui il est important qu'il y ait une mobilisation aussi de la profession. Et je sais que les organisations de défense des droits des journalistes et de la liberté d'information, ça se mobilise. Mais je pense qu'il serait bien dans la région, et en particulier le Sénégal, qui a connu des faits similaires il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'arrestation de journalistes de manière arbitraire, avec la suspension de Wolf TV et même le retrait provisoire de la licence. Je pense que des marques de solidarité vis-à-vis de vos confrères seraient, à mon avis, les bienvenus pour les soutenir, parce qu'ils ont aussi besoin de sentir qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation. Je crois que c'est d'autant plus important qu'il y ait un coup de projecteur qui soit mis sur la Guinée, et je vous remercie vraiment de poser ces questions-là et de m'inviter à évoquer cette question-là. C'est que la Guinée, c'est un pays qui n'intéresse pas les médias internationaux, pour être très honnête. C'est un pays qui n'attire pas l'attention. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, je trouve, ou très peu. Et j'ai aussi l'impression, après avoir rencontré un certain nombre de partenaires internationaux de la Guinée lors de mon séjour il y a quelques semaines, qu'il n'y a pas vraiment de volonté de faire pression sur le gouvernement guinéen, probablement de peur de perdre leur influence dans le pays au profit de Russes ou d'autres. Je pense que ça, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux. C'est un jeu qui est extrêmement dangereux, personne ne va y gagner. Je crois que c'est aussi parce qu'un certain nombre de pays occidentaux ont soutenu à bout de bras des régimes autoritaires, autocratiques, que les populations se sont... le sentiment anti-occidental s'est développé aussi et ensuite a été instrumentalisé de manière assez... comment dire, a été assez malhonnête, je trouve. De la part d'un certain nombre d'autorités militaires pour asseoir leur légitimité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment important de continuer à regarder ce qui se passe en Guinée, à dénoncer ce qui s'y passe lorsqu'il y a des violations qui sont commises, et à ne pas considérer qu'il faut tout accepter pour garder une forme d'influence ou d'amitié ou de relation commerciale avec ces pays-là. Je crois qu'il faut rester, il faut continuer de défendre les principes, et c'est très important.
Justement, aujourd'hui, qu'est-ce que les professionnels des médias doivent faire pour que la licence de ces 5 organes de presse qui a été suspendue puisse être restituée?
Alors, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, en parler massivement, inviter vos collègues guinéens à s'exprimer aussi sur vos chaînes. Je pense que ça, c'est très important. Ensuite, c'est faire du plaidoyer en direction des pays qui pourraient influencer positivement la Guinée. Le Sénégal, le président du Sénégal s'est rendu en Guinée il y a quelques semaines. Probablement que le président du Sénégal pourrait, ou les autorités sénégalaises pourraient jouer un rôle pour essayer d'obtenir que les licences soient restituées à ces médias, au nom des principes qu'ils ont eux-mêmes défendus. Les autorités qui aujourd'hui dirigent le Sénégal sont aussi les autorités qui ont combattu les restrictions à la liberté d'expression, les restrictions à la liberté de manifester. Et donc, pour être cohérente par rapport à leurs principes, et j'espère que je pense, pour avoir rencontré le président il y a quelques semaines, j'ai eu l'impression qu'il était très à cheval sur ces principes-là, et je pense que c'est important que ça se traduise dans les actes aussi, en soutien, à ce que vivent aujourd'hui les Guinéens.
Les journalistes accusent les militaires de vouloir leur imposer un traitement dit patriotique de l'actualité ou bien de l'information, un cas également que dénoncent d'autres confrères qui sont dans des pays dirigés par des régimes militaires, que ce soit le Mali, le Niger ou bien même le Burkina Faso. Cela constitue-t-il une grave atteinte à la liberté de presse?
Oui, je crois que malheureusement, ce phénomène qui consiste à vouloir bâillonner ou en tout cas contrôler le travail médiatique sous ces régimes dirigés par des juntes militaires, que l'on parle des pays du Sahel ou de la Guinée, est extrêmement grave et se constitue une atteinte sérieuse au droit à la liberté d'expression et au droit à la liberté d'informer. Ces régimes ne supportent pas l'idée que les journalistes puissent faire leur travail librement et donc relater les faits tels qu'ils se produisent, qu'il s'agisse de problèmes économiques que rencontre le pays, qu'il s'agisse des massacres, de massacres dirigés contre les civils commis soit par les groupes djihadistes, soit par l'armée régulière elle-même, comme on l'a vu au Mali, comme on l'a vu malheureusement au Burkina, dans des proportions absolument abominables. Les journalistes doivent pouvoir faire leur travail qui consiste à informer les citoyens ce qu'il se passe dans le pays et ne doivent pas se voir dicter la manière dont ils doivent parler, les sujets qu'ils doivent aborder. Et je crois que nous l'avons vu d'abord au Mali, et je pense que c'est quelque chose qui aurait dû alerter de manière générale la profession, c'est-à-dire des sommations faites aux médias de faire ce que effectivement vous appelez ou qu'ils ont appelé un traitement patriotique de l'information, qui consiste à dire en gros, qui consiste à servir d'outils de propagande du gouvernement, des autorités en place. Il s'agit de rien d'autre. Le Burkina Faso a embrayé le pas. Un certain nombre de médias, notamment étrangers, ont été suspendus. Des menaces à peine voilées ont été faites en direction des médias dès qu'ils ont abordé des cas, et en particulier lorsque ça concernait des massacres commis par des militaires, par exemple au Burkina ou au Mali. Et ça, c'est extrêmement dangereux. La profession ne doit pas, doit se solidariser des journalistes. Et puis, vous savez, ce qu'on observe aussi en discutant avec vos confrères un peu dans ces pays, c'est une forme d'autocensure. Personne n'a envie de s'exposer. Lorsque vous voyez qu'au Burkina Faso, le fait de critiquer la transition, le fait de questionner, le fait que la transition s'éternise, le fait de parler de ce qui se passe réellement et de décrire la situation dans le pays vous conduisent à être envoyé de force au front. Ça, c'est évidemment quelque
Absolument.
chose qui vous amène à réfléchir et à vous dire que peut-être que vous allez choisir de vous autocensurer plutôt que de décrire la réalité, de faire votre travail de journaliste.
Absolument. Nous reviendrons tout à l'heure sur les cas du Mali et du Burkina Faso, mais restons sur l'exemple guinéen. Aujourd'hui, le Comité national du Rassemblement pour le développement, le CNRD, au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, après le coup d'État contre Alpha Condé et sur plusieurs fronts judiciaires. D'une part, le procès historique du massacre du 28 septembre 2009, et d'autre part, la traque de plusieurs dignitaires du régime déchu, dont l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana et l'ex-ministre de la Défense Mohamed Diané, dont les avocats ont refusé dernièrement de plaider au tribunal. Quel est l'appel que lance Amnesty International par rapport à toutes ces procédures judiciaires ouvertes en Guinée que certains qualifient de chasse aux sorcières?
Écoutez, tout ce qui peut concourir à mettre fin à l'impunité qui a régné pendant des décennies en Guinée est le bienvenu. Le procès du 28 septembre, c'est un procès pour lequel nous avons milité pendant des années,
Oui.
que nous avons attendu, et les Guinéens en premier, trop longtemps. Et donc, c'est important que ce procès ait pu se tenir. C'est un procès qui a été long, extrêmement coûteux, mais je pense absolument essentiel pour la société guinéenne et pour faire aussi, parce que la justice, c'est aussi ce qui permet de construire et de consolider la paix. Nous, ce que nous disons sur peut-être pas sur ces procédures en particulier, parce que nous n'avons pas malheureusement accès en dehors du procès du 28 septembre, évidemment que nous le suivons, mais pour les autres procédures, nous n'avons pas accès au dossier. Nous, ce que nous disons quand même aux autorités guinéennes, c'est que cette lutte contre l'impunité, elle doit pas être à géométrie variable. Nous travaillons depuis des années sur la question des violences policières avec. Des dizaines de personnes qui ont été tuées au cours de ces dernières années alors qu'ils manifestaient pacifiquement ou bien parce qu'ils étaient chez eux à proximité d'un mouvement de protestation. Il n'y a jamais, il y a eu évidemment avec l'arrivée de la transition, des annonces qui sont régulièrement faites de procédures qui vont être engagées contre les responsables. Aucune de ces procédures n'a jamais avancé. Aucune de ces victimes et leurs familles n'ont obtenu justice et réparation. Et surtout, nous avons répertorié des centaines de cas de personnes qui sont grièvement blessées, qui nécessitent des soins et qui n'ont jamais obtenu de prise en charge quelconque de la part des autorités. Donc, ce que je dis, c'est que si les autorités souhaitent sincèrement lutter contre l'impunité et faire en sorte que la justice se fasse, je pense qu'elle pourrait, par exemple, travailler sérieusement sur ce dossier-là, qui est un dossier très important parce qu'il concerne une part importante de la jeunesse guinéenne. C'est elle principalement qui fait l'objet qui a été affectée par cette répression féroce. Et malheureusement, ce que nous observons avec les transitions, c'est que non seulement justice n'a pas été faite, mais que les manifestations sont toujours interdites. Elles sont interdites depuis de manière automatique et
Selon la
absolue.
public.
Aucune manifestation ne peut avoir lieu, sauf les manifestations pour soutenir le régime en place, qui est évidemment problématique. Et la répression, elle reste la même. On n'a pas vu de modification dans le modus operandi des forces de l'ordre sous le régime de transition, alors même que, je le rappelle, le CNRD avait indiqué que les droits de l'homme seraient au cœur des préoccupations du régime de la transition.
Passons maintenant au Mali. Les assises nationales ont débouché sur les conclusions suivantes: la prorogation de la transition de 2 à 5 ans, assortie d'une candidature de son président Assimi Goïta lors des prochaines élections prévues en 2029. Je dois préciser qu'Amnesty International ne s'occupe pas exclusivement des questions politiques, mais il est bon de rappeler cela aux auditeurs qui nous suivent attentivement. Avant la tenue de ce dialogue intermalien, Samira Daoud, la Haute Autorité des médias et de la communication a sorti une circulaire ou une note pour interdire aux médias de couvrir les activités de l'opposition accusée de saper l'unité nationale. Ce n'est pas tout. Le régime de Bamako a aussi dissous le mouvement de l'imam Mahmoud Diko, très célèbre au Mali. Comment jugez-vous cette situation?
Je crois que, comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, les libertés d'expression, les libertés de manifester ou de réunion pacifique sont gravement menacées au Mali depuis longtemps, depuis plusieurs années maintenant. Un certain nombre de mouvements ont été dissous, les médias sont littéralement interdit de traiter de questions qui sont les questions essentielles pour le pays. Et donc, nous sommes extrêmement inquiets de la situation au Mali. Un certain nombre de membres de la société civile ont dû fuir, des journalistes même se sont menacés, ont dû fuir. Et donc, il faut absolument que tous les États amis du Mali, ou en tout cas qui peuvent influencer de quelque manière que ce soit le cours des choses, utilisent ces leviers pour pouvoir faire en sorte que la situation change au Mali, dans la mesure où vous avez un régime clairement autoritaire qui est en place maintenant depuis plusieurs années, qui n'a manifestement pas l'intention de partir, et qui, pourtant, n'apporte aucune réponse aux Maliens. Sur le plan sécuritaire, la situation au Mali est absolument catastrophique. Sur le plan économique et social, les Maliens sont très affectés par l'absence quasi totale d'électricité de manière quotidienne. C'est d'ailleurs aussi le cas en Guinée. Quand nous y étions, il n'y avait pas d'électricité de 7h du matin à 19h tous les jours. C'est quand même extrêmement pénible pour les populations. Et donc oui, nous sommes très inquiets de la situation sous ce régime de transition qui ne semble pas vouloir respecter quelques principes que ce soit. Il faut quand même rappeler que tous ces pays ont signé des conventions internationales qui les obligent à respecter un certain nombre de droits, y compris le droit à la liberté d'expression. Et donc, les journalistes doivent pouvoir exercer leur travail de manière totalement libre, dans le respect de la loi, évidemment, mais de manière libre. Et les partis politiques doivent pouvoir exercer leurs activités sans crainte. Aujourd'hui, le fait d'avoir décrété qu'il n'y a aucun parti politique n'est autorisé à exercer ses activités, c'est absolument effrayant.
Vous avez tiré tout de suite la sonnette d'alarme sur la situation sécuritaire qui est délétère, selon vous, au Mali. L'armée malienne, justement, les FAMA et les supplétifs du groupe Wagner sont accusés d'exactions au centre, mais également au nord du pays. Ces allégations sont-elles fondées?
Absolument, ça ce sont des choses que nous-mêmes nous avons documentées directement, ainsi que d'autres organisations. C'est le cas depuis des années. Ce n'est pas la première fois ce n'est pas récent tout à fait que l'armée malienne commette des exactions. Ce qui est par contre absolument effrayant, c'est que c'est depuis le régime de transition que les massacres sont commis à une échelle absolument effrayante. Vous vous souviendrez peut-être du massacre qui s'est déroulé à Moura, qui a été absolument meurtrier pour les populations civiles, où près de 500 civils ont été tués par les forces maliennes et leurs alliés russes. Aucune justice n'a été rendue pour ces victimes. Et les massacres se sont poursuivis, que ce soit les massacres commis par les djihadistes et donc des populations qui continuent de subir les attaques de ces groupes terroristes, et dans le même temps, l'armée malienne qui, plutôt que de protéger les populations, elle-même se livre à des exactions d'une gravité extrême. Donc oui, nous confirmons qu'il y a eu plusieurs massacres commis par l'armée malienne au Mali. Oui.
Quelle est la situation humanitaire sur le terrain avec les déplacés qui ont fui les zones menacées par les djihadistes et les extrémistes violents?
Alors la situation elle est très préoccupante. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui ont fui et qui sont déplacées à l'intérieur du pays, qui ont fui ces zones. Vous avez des centaines d'écoles qui sont fermées, donc ça fait des centaines de milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école depuis plusieurs années, qui sont complètement déscolarisés, et il n'y a pas de prise en charge pour eux. Et donc oui, la situation elle n'est pas bonne, que ce soit au Mali ou au Burkina Faso. Aussi au Burkina Faso, la situation humanitaire est même encore plus critique, d'autant plus qu'au Burkina Faso vous avez plusieurs villes, plusieurs villages qui sont sous blocus, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune possibilité d'être ravitaillés ou d'avoir des contacts avec l'extérieur. C'est une grande partie du territoire burkinabé qui aujourd'hui est sous contrôle entre guillemets, c'est-à-dire que la manière dont les groupes djihadistes opèrent, c'est pas de forcément d'occuper les zones, mais par contre de rendre inopérant toute possibilité pour l'armée d'assurer le contrôle, avec en plus quelque chose qui est extrêmement inquiétant que nous avons pu observer ces derniers mois, c'est cette procédure qui consiste à réprimer violemment les civils à qui on reproche d'être des complices des groupes djihadistes. C'est-à-dire qu'un groupe djihadiste opère une attaque contre une installation militaire au Burkina Faso, et plutôt que d'aller chercher ces djihadistes qui vous ont attaqué, vous allez attaquer les villages voisins, vous allez tuer tous les civils que vous allez y trouver, y compris les enfants, en considérant que si ils sont encore en vie, c'est qu'ils sont complices de ces djihadistes. Ça, c'est extrêmement, extrêmement grave. C'est des choses que nous avons pu observer, y compris dans la lutte contre Boko Haram, par exemple, au Cameroun ou au Nigeria, qui a eu des effets absolument dévastateurs sur les populations civiles, et qui n'a absolument pas permis de lutter contre le djihadisme, parce que ce n'est pas en vous en prenant aux civils, qui sont eux-mêmes les premières victimes, de ces groupes djihadistes, que vous
Avec
allez...
l'air de tout ça.
Exactement, bien sûr que ce sont ces mêmes populations qui sont sous occupation djihadiste, qui sont en permanence l'objet d'incursions dans leur village, qui sont pour certains qui vivent sous blocus. Et donc, et par ailleurs, c'est un crime de guerre et voire des crimes contre l'humanité que de s'en prendre à des civils en représailles d'attaques qui ont été menées par des djihadistes et non pas par des civils contre des installations militaires.
Au-delà des exactions que vous avez documentées, que ce soit vous, Amnesty International ou encore Human Rights Watch, il y a le cadre stratégique permanent pour la défense des peuples de l'Azawad, dont j'ai reçu dans cette même émission le porte-parole qui a accusé de génocide l'armée malienne et les supplétifs du groupe Wagner contre les populations arabo-touareg et contre la communauté Peul au nord du Mali. Ces allégations sont aussi, en tout cas, documentées selon vous?
Alors nous ne parlerions pas de génocide parce que ce n'est
Oui.
pas... Le génocide, ça répond à une définition bien précise
Oui.
et ce qui se
C'est
produit...
l'épuration d'une partie ou de la totalité d'une
Voilà. Et
population.
ensuite, il
Oui.
faut, un, montrer l'intentionnalité d'exterminer tout ou partie de
Absolument.
cette population. Et ensuite, il faut qu'un des éléments constitutifs du crime de génocide soit réuni. Nous n'avons pas étudié ça sous cet angle-là. Pour l'instant, ce que nous
Ouais.
observons, ce que nous documentons, que
Mais
ce
est-ce que
soit au
les
Mali,
populations arabo-touareg et les peuls sont ciblées, comme le dit le
ce qui
CSPDPA?
est sûr, c'est que on a pu observer au Mali une forme d'attaque visant, je dirais pas spécifiquement les Peuls, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que les zones dans lesquelles on a procédé à des exactions, ce sont des zones qui sont évidemment traditionnellement peuplées majoritairement de Peuls ou de Touaregs. Et donc moi je n'irai pas
Très
jusqu'à
bien.
dire qu'il s'agit de génocide. En revanche, il y a un discours prononcé par certains responsables qui ont tendance à vouloir créer la confusion entre djihadisme et communauté peule. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu au Burkina Faso en particulier, par exemple, où on a tendance à dire qu'en gros, ce sont les peules qui alimentent les groupes djihadistes et que donc c'est quelque part comme un conflit ethnique entre Peuls d'un côté et les autres communautés de l'autre. Ça, c'est extrêmement grave parce que ça ne correspond à aucune réalité. Si vous allez trouver, évidemment, vous allez trouver probablement des Peuls dans certains groupes djihadistes, mais ça n'est pas en tant que Peuls qu'ils rejoignent ces groupes. Ils les rejoignent pour les raisons qui sont les leurs. Mais ce qui est certain, c'est que la population Peuls, qu'elle soit au Mali, au Burkina Faso ou ailleurs, ne peut en aucun cas être considérée comme responsable de ces attaques et ne peut en aucun cas être prise pour cible en tant que communauté peuple.
Le CSPDPA, qui accuse l'armée malienne de procéder à des actes de génocide, a aussi révélé dans cette émission, par la voix de son porte-parole, Mohamed Mahmoud El-Ramadan, que Wagner fait dans le pillage systématique des ressources naturelles et des biens des populations. Est-ce que Wagner pille les pays où il intervient?
Alors écoutez, le modus operandi de Wagner sur le continent, avant de le voir au Sahel, nous avons pu l'observer au Mozambique, nous avons pu l'observer en Libye, nous avons
En
pu l'observer en
Centrafrique,
Centrafrique.
oui. Il y
Il est
a
toujours le
Olaïs von
même.
Wagner qui documente
Il
cela.
a toujours été le
Oui.
même. C'est-à-dire que ce sont des mercenaires, rappelons-le. Donc ce sont des gens qui sont payés pour mener des opérations à la demande d'un État. Et toutes leurs interventions ont systématiquement été émaillées d'exactions extrêmement graves, en particulier En Centrafrique, où ça a été très très largement documenté, c'est-à-dire de s'en prendre à des civils. Ils ont été accusés, documentation à l'appui, de viols systématiques et de pillages. Ils ont par ailleurs effectivement un des moyens qu'ils utilisent pour se faire payer, parce que souvent les États avec lesquels ils contractent, par lesquels ils sont recrutés, n'ont pas forcément les moyens de les payer. Ils sont souvent payés en redevance, si vous voulez, sur les ressources minières, en l'occurrence en Centrafrique. Pour nous, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour ces pays, parce que ça ne résout pas le problème sécuritaire, et il suffit d'observer ce qui se passe de manière honnête au Mali, au Burkina Faso, enfin au Mali en particulier, où ils sont présents. On ne peut pas dire que la situation sécuritaire se soit améliorée, c'est faux. Ceux qui disent ça, je pense, ne regardent pas les chiffres et ne veulent pas décrire une réalité qui malheureusement est tout autre. Et par ailleurs, on a vu le massacre de Moura, des centaines de personnes. Parmi les premières interventions de Wagner au Mali, ça s'est soldé par des centaines de morts parmi les civils. C'est absolument abominable. Et donc, ces crimes de guerre doivent être jugés. Et malheureusement, j'ai l'impression que les autorités n'ont aucune intention de se préoccuper de cette situation-là. Et c'est pour ça que les citoyens doivent pouvoir être appuyés pour qu'ils puissent continuer à exprimer leurs opinions, pour qu'ils puissent exprimer leur désaccord et leur colère face à de ce type d'exaction.
Très bien, vous suivez Diplomatie sur e-Radio, Samira Daoud, directrice du bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et notre invitée. Alors, terminons par le Burkina Faso. Les avocats sont en grève jusqu'au 8 juin prochain. Ils exigent la libération de leur confrère Maître Guy-Hervé Kam, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. La situation qui prévaut au pays des hommes intègres est-elle inquiétante?
Oui, là encore, malheureusement, je ne peux pas être très optimiste. La situation de manière générale au Burkina Faso n'est pas bonne. Ce que le Burkina, là où le Burkina, en matière de répression des voix dissidentes, a innové, entre guillemets, c'est qu'il a, comment dire, normalisé le fait d'envoyer, arrêter de manière arbitraire les personnes, les envoyer au front pour quelque part les punir d'avoir critiquer le gouvernement, d'avoir rappelé que l'autorité, enfin, que les transitions devaient se terminer. L'arrestation de Guy-Hervé Kam, c'est un dernier exemple, qui est inquiétant aussi, parce que ce que ça montre, c'est qu'il a été arrêté de manière complètement arbitraire, il a été détenu au secret pendant plusieurs mois. Un tribunal au Burkina Faso a ordonné sa libération, la sienne comme d'autres. Il a été libéré, et dans un scénario absolument cruel, alors qu'il est en train d'arriver devant chez lui et que sa famille l'attend, qu'il n'a pas vu depuis plusieurs mois, il est de nouveau arrêté en dehors de tout cadre, puisque il est accusé cette fois-ci d'atteinte à la sûreté de l'État, ou de complot contre la sûreté de l'État. Alors même qu'on vient de déclarer, enfin, qu'il vient d'être libéré, et que sa mise en détention a été ordonnée, qu'il est en train d'être libéré, et que tout d'un coup on sort du chapeau une nouvelle accusation. Et donc ça, c'est extrêmement grave, parce que ça veut dire que non seulement on instrumentalise, entre guillemets, la justice, puisque dès qu'on veut s'en prendre à quelqu'un qui est critique des autorités, il suffit d'engager des poursuites. Mais aussi que malgré tout, y compris lorsque la justice fait son travail, parce que là, en l'occurrence, la justice a fait son travail, la justice à plusieurs reprises s'est prononcée sur ces cas de disparition forcée et de conscription forcée, en disant qu'elles étaient illégales et que la personne devait être libérée, y compris dans ces cas-là, malheureusement, les autorités ne respectent pas les décisions judiciaires, et c'est ce qui s'est produit pour Guy-Hervé Kam, mais aussi le lieutenant-colonel Zungrana, qui aussi avait été libéré le jour même.
Vous l'avez dit, il n'y a pas que Maître Guy-Hervé Kam qui a une paille à partir avec les autorités ou bien avec la justice. En décembre dernier, Ablassé Ouédraogo, ancien ministre des Affaires étrangères, a été réquisitionné de force dans l'armée avant d'être libéré au mois de mars passé. L'activiste Daouda Diallo a été aussi kidnappé et envoyé au front. Vous exigez toujours d'ailleurs sa libération. Êtes-vous de ceux-là qui pensent que les militaires cherchent à étouffer systématiquement toute voix dissidente?
Je crois que c'est difficile de ne pas interpréter ces arrestations et ces réquisitions forcées de cette manière-là. Les seules personnes à notre connaissance qui ont été envoyées de force au front, arrêtées de manière aussi brutale et détenues au secret pendant des mois, ce sont des personnes, ce sont des défenseurs des droits humains, ce sont des personnes qui ont critiqué la manière dont la transition était conduite. Ce sont des gens qui ont rappelé au régime de transition qu'il fallait ramener, rendre le pouvoir aux civils. Donc, moi, j'ai jamais entendu qu'on avait réquisitionné de force des proches de la junte. Donc, c'est difficile d'y voir autre chose qu'une volonté délibérée de faire taire toute forme de critique et de tétaniser les Burkinabés au point où, évidemment, si on vous dit que si vous vous exprimez librement et que vous critiquez la junte, potentiellement vous allez vous retrouver au front, oui, ça vous fait réfléchir et ça vous conduit évidemment probablement à ne plus vous exprimer et laisser la junte finalement dérouler son programme comme elle le souhaite. Si elle décide de ne jamais partir, elle ne partira pas. Si elle décide de fermer tous les médias, et ben, personne ne pourra le contester parce que évidemment ça crée une terreur au sein de la population parce que c'est assez dissuasif. J'imagine, moi, si j'étais Burkinabé et que potentiellement je pouvais être moi qui ai des enfants me retrouver envoyé au front et peut-être perdre la vie, oui, peut-être que je m'exprimerai moins.
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont mis en place l'Alliance des États du Sahel depuis septembre dernier et sont sur le point de lancer la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, la CAES, pour concurrencer la CEDEAO, qui est la principale organisation d'intégration sous-régionale. Quel rôle peut jouer le Sénégal pour rabibocher les deux parties?
Alors, je crois que le Sénégal a un rôle très important à jouer dans la région. Le Sénégal, aujourd'hui, bénéficie, je pense, d'une légitimité dans la région sur le plan démocratique, sur le plan politique. Et je pense que c'est important que les autorités sénégalaises et le président en tête, qui a été élu de manière absolument sans appel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contestation possible sur la légitimité que le président Diomaye Faye a au Sénégal, il doit pouvoir utiliser cette légitimité et aussi la légitimité de celui qui a avec ses collègues du PASTEF d'avoir aussi appelé à des relations renouvelées, plus équilibrées avec les pays occidentaux. Je pense que cette crédibilité, cette légitimité doivent être utilisées au service, non pas, je pense, d'une normalisation avec des régimes autocratiques, militaires, non démocratiques, qui mettent en prison des journalistes, qui ferment des médias. Elle doit être mise au service d'un changement dans le bon sens de ces régimes qui sont dirigés par des militaires. Si c'est l'objectif du président Diomaye Faye, tant mieux, et j'espère qu'il atteindra son objectif, et parce que je pense qu'aujourd'hui on ne doit pas tomber dans le piège qui consiste à dire, plutôt que de perdre la CEDEAO, enfin de voir la CEDEAO s'effondrer, acceptons tout, y compris des choses qui sont contraires à nos propres principes, nous, organisation de la CEDEAO, parce qu'il y a des textes fondamentaux de la CEDEAO qui sont des textes qui prônent évidemment la bonne gouvernance et la démocratie, qui sont des textes qui doivent garantir le respect des libertés. Donc on ne peut pas, pour pouvoir sauver cet espace, aussi important soit-il, l'espace de la CEDEAO, passer par pertes et profits, les principes fondamentaux qui sont le socle, constituent aussi le socle de la CEDEAO. Donc moi, ce que j'espère évidemment, c'est que les efforts qui ont été déployés par le président Diomaye Faye dans sa visite à ces différents pays ces dernières semaines, aillent dans le sens de ramener ces pays-là vers un plus grand respect des libertés.
Le temps qui nous est imparti est malheureusement arrivé à son terme. Samira Daoud, merci de vous être prêtée à nos questions et de nous avoir reçus ici dans vos locaux.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes la directrice régionale du Bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Un grand merci à vous également, chers fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine sur e-Radio. Au revoir.